レルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ
dans une maison, restez-y. C'est de là que vous repartirez. Et si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un témoignage contre eux. Alors ils partirent. Et ils allaient de village en village, et ils annonçaient la bonne nouvelle, et ils faisaient partout des guérisons. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur, que ton évangile, Seigneur, enveloppe comme un manteau, la terre tout entière de sa lumière vivante. Qu'elle pénètre comme la rosée dans la verdure, toute chair assoiffée de sainteté virginale, divine, toute pure. Qu'ils puissent voir s'ouvrir devant leurs yeux, dès cette terre, les portes de la Jérusalem d'or, libérées de toute entrave, lavées de toute faute au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Louange à toi, Alléluia. 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 Louange à toi. Au milieu de la France, au centre de la France, pour dresser une croix, pour dresser une croix trinitaire, à la demande du ciel, au centre de la France, une croix doit être dressée, tritium de Saint-Michel Archange, c'est vrai, 27, 28, 29, aujourd'hui c'est le 27, 28 et 29. C'est bien, je trouve. Saint-Vincent-de-Paul. Saint-Vincent-de-Paul, c'est un saint qui vient de Gascogne, donc c'est un du sud-ouest. Mais plus profondément, Saint-Vincent-de-Paul, c'était un juif. Ça se voit d'ailleurs. Son faciès. Il faut prier pour les autorités. Il a quand même été le chef du gouvernement français. Il a gouverné la France. C'était le président du conseil, c'était le premier ministre. On le connaît aussi beaucoup parce que il courait dans les rues la nuit pour aller ramasser les enfants abandonnés par une mère qui venait d'accoucher, qui les laissait sur des marchelles mourir, quoi, dehors. On le sait aussi que, bon, on le connaît aussi pour. C'est des choses qu'il faisait pendant des années et des années. Pendant des années, il a été. Parce qu'il a été premier ministre, gouverneur de la France, ça n'a pas duré une dizaine d'années quand même. Il a voulu remplacer des galériens. Il trouvait que les galériens ne les respectaient pas. Alors il était aumônier des galériens. Et puis quand quelqu'un était méprisé comme galérien, on ne respectait même pas leur vie, on les tuait. Alors il disait, moi je veux me mettre avec eux. Il avait un côté un peu pareil que le pape François. Et qu'est-ce qu'il fout le pape François là, remplacer un galérien? C'est pas sa place. Côté. Était quelqu'un d'extraordinaire. C'est à lui qu'on doit que les prêtres de l'Église catholique. On va les ordonner, mais on va d'abord leur exiger d'eux qu'ils soient formés. Avant, les séminaires n'existaient pas, Saint-Vincent-de-Paul, qui a dit il faut former les prêtres. Pourquoi? Parce qu'avant, lui, on l'ignore, mais la chrétienté était formée quoi, dès l'enfance. Saint Thomas d'Aquin était connu. Vous n'aviez pas votre baccalauréat si vous ne connaissiez pas tout Saint Thomas d'Aquin. Prêtre ou pas prêtre. mais au XVIIe siècle, c'était fini tout ça, déjà. Donc les gens qui s'étaient fait prêtres, ben, je veux dire, la grégarité de la formation mystique, spirituelle, théologique, vous voyez, doctrinale, tout, scolastique, des générations humaines en France, commençait déjà à chuter, vous voyez. Dangereusement, alors, il a fallu vraiment, du coup, faire une formation spéciale. Le siècle de lumière avait commencé à apparaître, déjà. Et donc, les séminaires, ça vient de Saint-Vincent de Paul. Avec les Sulpiciens, vous savez. Et le Père Ollier. On ne connaît pas trop Saint-Vincent de Paul sous cet angle-là. Et c'est un immense théologien. Hein. C'est un très élevé. Ouais. Par exemple, vous savez, ceux qui me connaissent savent. L'admiration que j'ai, par exemple, sur les enseignements de Saint-Vincent de Paul à propos de Saint-Joseph. S'il n'avait pas été là à l'école française, qu'on appelle le renouveau de toute la chrétienté, grâce à l'école française, le Sacré-Cœur, etc., il n'aurait jamais existé. Je crois que la chrétienté aurait disparu. Par exemple, il y a la phrase que chacun de vous, je suppose, connaît désormais par cœur, de Saint-Vincent de Paul, du Père Ollier aussi. C'est... On ne peut pas séparer Ollier, Père Ollier de Saint-Vincent de Paul, c'est fondateur des Sulpiciens, Père Ollier. Quand il dit que Saint-Joseph était le sacrement de la première personne de la Très Sainte Trinité. Sacrement. Ben, sacrement. C'est pas juste icône. Hein. L'hostie, c'est le sacrement de Jésus. Et quand il dit que le Saint-Joseph, c'est cette phrase que vous connaissez tous par cœur maintenant, je suppose, que inspirator, que Saint-Joseph, substantia inspirator, ne cesse de spirer de l'intérieur la substance même de l'hypostase de la première personne de la Très Sainte Trinité, le Père. Ce que fait Saint-Joseph depuis le début de sa vie, c'est de spirer, je dis bien spirer, spiratio, à l'intérieur de lui-même, la substance de la première personne de la Très Sainte Trinité qui est le Père. Vous savez tous ça. C'est le seul saint hein, de toute la terre, Saint-Joseph, qui a passé sa vie, qui a eu pour vocation de spirer à l'intérieur de lui la substance de la nature divine. De la première personne de la Très Sainte Trinité. C'est Saint Paul qui dit, Saint-Joseph, c'est... Il y a eu des millions de saints pour représenter le visage du Fils unique de Dieu, de Jésus. Il n'y en a eu qu'un seul pour représenter réellement la première personne de la Très Sainte Trinité. Pourquoi? Parce que inspirator substantia Divini Naturae Patris. Et la nuit, quand on prend autorité, on évoque, dans le tour de la rédemption, tous les mouvements intérieurs de notre Seigneur, de notre Dame et de Saint-Joseph sur la terre. Et en particulier, on exprime net, clairement qu'on évoque, on pénètre à l'intérieur de l'aspiration intérieure de la nature divine de Dieu le Père en Saint-Joseph, pour pouvoir prendre autorité, pour avoir participation pour chasser les démons, détruire les sources du mal. Donc Saint-Vincent de Paul, ce n'était pas le saint nié, vous savez. représente quelquefois la révolution, 100 ans après, 100 ans à la date de la troisième révolution française. On l'a caché parce que son corps était totalement incorrompu, parfaitement souple. Pas seulement incorrompu, il était souple comme Bernadette. Et il y a deux saints dont le corps est resté non seulement incorruptible, mais en plus souple. Les autres, souvent, les corps des saints sont devenus incorruptibles, si vous voulez, non corrompus, mais pas souples. Saint Vincent de Paul, oui. C'était très embêtant pour les révolutionnaires à Paris, n'est-ce pas? Très embêtant. Les fidèles, enfin certains fidèles, s'en dit, bon, on va le cacher, et on a caché le corps de Saint Vincent de Paul dans les égouts. Mais dans les égouts, en 1800, la révolution de 1848, dans les égouts, il y avait des rats. Et il a été mangé par les rats. Sainte Bernadette a été bouffée par le scalpel du médecin. C'est pas mieux. C'est pareil. La destruction des œuvres de Dieu s'est fait. Et la sainteté de Dieu se fait quand même presque mécaniquement, spontanément. Et les rats qui ont bouffé Saint Vincent de Paul, si je puis dire, dévoré, ça représente l'oubli, quoi, de sa doctrine, de son enseignement, de son intelligence. Mais enfin, ça, on peut pas dire. C'est quand même un saint, quand même, que les gens aiment beaucoup. Quand on va à Paris, on va à la rue du Bac, spontanément. Quelqu'un qui passe à Paris, qui va pas à la rue du Bac, c'est qu'il n'est pas inspiré, quoi. C'est quelqu'un qui... Non, Saint Vincent de Paul, c'est la rue du Bac, hein. C'est la rue de Sèvres aussi. C'est lui qui a formé mon oncle, Saint Jean-Gabriel Peyrepoix, pour être crucifié en Chine. C'est le saint de la croix glorieuse. C'est le saint de l'enfance abandonnée, détestée, crucifiée. C'est le saint du royaume de France. C'est le saint de Saint Joseph. C'est le saint du sacerdoce, victime éternelle d'amour. Il dormait très peu. Parce que il fallait s'occuper des enfants, des pauvres. Misérable. Donc ils étaient toujours dehors dans les banlieues les pires qui soient, la nuit, il parcourait, il allait chez les uns les autres, les enfants, tout ça. C'est difficile effectivement d'être premier ministre du royaume de France et puis de s'occuper des pauvres par centaines et personnellement. Si tu dors, si tu prends ton... Nana était infatigable. Infatigable. Dès le départ, Saint-Joseph, comme il l'explique, et lui, ça veut dire que lui aussi, c'est ce qu'il faisait, finalement, évidemment. On l'imagine, sinon son corps ne serait pas comme Sainte Bernadette, engendré par le corps glorieux de Saint-Joseph. Saint-Joseph, c'est le Père. Et Marie, c'est la Mère. Et dans leur sponsalité glorifiée, ressuscitée, et glorieuse, assumée dans la gloire de la résurrection, eh bien, forcément, que la maternité divine et humaine de Marie est ressuscitée, et si la maternité physique de la nature humaine de Marie est ressuscitée avec sa spontanéité en Saint-Joseph, et pareil pour Saint-Joseph, l'au-delà de leur unité sponsale est évidemment ressuscité aussi. Et l'au-delà de l'unité sponsale, elle est féconde, parce que c'est le propre de l'au-delà de l'unité sponsale, dans la chair et le sang, que d'être source de fécondité. Dans la matière, on veut dire par là, dans la matière, c'est-à-dire dans tout ce qui est capable d'avoir une forme d'amour incarné. Et c'est ce qu'ils engendrent, c'est pour ça que Saint-Joseph est roi du ciel et de la terre. Roi du ciel, roi du monde angélique, roi du ciel et de la terre. Et que l'Esprit-Saint est l'acte de tout ce qu'il est en puissance dans son au-delà de l'unité sponsale avec la Reine Immaculée du ciel et de la terre. Et il spire de l'intérieur, mais glorieusement et éternellement, la substance de l'aspiration active du Père. C'est quand même des expressions du catéchisme de avec saint Vincent Paul qu'il faut retenir quand même. Puisque ces paroles-là, c'est quand même pas de la mystique, petite mystique, mystico-dingo, stupide. À basse altitude, moi je me rappelle quand j'étais, quand je m'extasiais, quand j'étais jeune, de faire des rêves où je volais, quoi. C'est vrai, il y a des gens comme ça qui font des rêves, puis alors, ils rêvent qu'ils sont des poissons, ils sont dans l'eau. C'est leur rêve, ils se réveillent, ils disent « Ah, tiens, c'était un poisson !» Et puis, moi, je n'ai pas jamais fait ce rêve, mais je faisais des rêves où on volait. Alors, oui, on volait, on priait Dieu, et puis on était avec Jésus, où on priait. On priait, et puis il y avait comme si quelque chose qui faisait que on pouvait voler au-dessus des gens, comme Saint-Joseph de Copertino. Alors, je rêvais que je volais, quoi. Mais je me rappelle encore, le vol, c'était quand même à basse terre, vous savez. C'était comme le vol d'un crapaud, quand j'y pense, finalement. C'était très bas comme vol. Ah oui, d'accord, on décollait du sol, mais on sentait la lourdeur, comme ça. On sentait quand même la lourdeur. C'est ça. Ça va, Saint-Paul, c'est très haut. C'est très haut. C'est des mots, les mots du catéchisme de Saint-Vincent-Paul, la formation des prêtres. C'est des mots qui sont très élevés, puisqu'ils rentrent dans... C'est des mots qui recueillent la révélation de la doctrine infaillible de l'Église concernant le Père. Non, le Verbe, la sponsorité et l'Esprit Saint, les hypostases, les spirations, les processions, les émanations, la présence réelle, la substance, la subsistance des choses. C'est vraiment un mot extraordinaire, ça, qui date des tout premiers conciles, vous savez, l'époque où aujourd'hui on dit que les gens étaient de lamentables personnes, qui n'avaient aucune intelligence, comme aujourd'hui on a une intelligence scientifique très supérieure. À cette époque-là, c'est-à-dire il y a presque 2000 ans, hein, où soi-disant les gens étaient barbares, ils étaient 100 fois plus intelligents que les gens d'aujourd'hui. Tu demandes même l'élite intellectuelle des théologiens, tu leur demandes de parler de spiration. Vas-y, faites une tentative. C'était quelque chose qui était courant dans la contemplation chrétienne il y a 2000 ans. ça que notre vie spirituelle, notre considération des choses, ou notre mission sur la terre, bah, finalement est très lourde et regarde les choses très bassement. Comme les crapauds, un crapaud qui vole, pour moi c'est un peu ça. Les meilleurs intellectuels chrétiens d'aujourd'hui. Les meilleurs mystiques. C'est pour ça, on ne plaisante pas du tout quand on dit mystico-dingo. Il faudrait acheter mystico-dingo-crapaud. ce serait mieux, je crois. Ce serait encore plus parlant. Parce que je sais pas, il y a eu quelque chose, hein, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le catéchisme de base des premiers chrétiens, on est à 800 milliards de kilomètres et on considère que c'est de la haute cérébralisation ou complètement stupide. Bon, ça correspond à rien. En fait, c'est parce que c'est des mots qui désignent Dieu, comme dit saint Thomas d'Aquin, indirecto, pas in obliquo. Ça atteint Dieu en direct. Alors du coup, ça n'intéresse plus personne, puisque les gens aiment ce qu'ils font grâce à la grâce que Jésus leur a donnée, mais ils n'aiment pas Dieu. C'est ça notre conversion. Si on veut dresser une croix, si on veut rentrer dans l'aspiration active du Verbe de Dieu, qui vient embrasser la matière de l'Immaculée Conception, qui vient l'assumer. Pour être établi dans l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'aspiration passive, substantielle. C'est ça le mystère de la croix. Et notre vie chrétienne, comme dit saint Thomas d'Aquin, comme saint Paul voulait que on le fasse expliquer à tous les enfants au catéchisme, consiste à ce que à subsister. C'est une subsistance dans le Verbe de Dieu. Subsistance dans l'aspiration passive, épousée dans l'Esprit Saint du Verbe de Dieu. Le Verbe de Dieu, c'est une hypostase. C'est une des trois personnes de la très sainte Trinité. C'est Dieu qui aime activement jusqu'à être un fruit de gloire pour le Père, qui est également inspiration active. Et il le glorifie en disparaissant dans l'aspiration passive du Saint-Esprit. Et lorsqu'il prend chair, il faut bien qu'il passe par l'aspiration passive. C'est pour ça que le mystère de la croix est nécessaire dès lors qu'il s'incarne. On va dire la sagesse de Dieu, c'est la sagesse de la croix. Ah, pourquoi? Ah, parce que Dieu aime la souffrance. Ah, parce que Dieu aime la souffrance. Vraiment. Mais parce que Dieu est spiration. Un créé éternel d'amour, c'est tout à fait autre chose. Mais si je ne suis pas capable de spirer à l'intérieur, la nature substantielle, en subsistant en elle, par la grâce, des hypostases des trois personnes de la très sainte Trinité, comment est-ce que je vais comprendre divinement le mystère de la sagesse de la croix? C'est strictement impossible. Et c'est voilà comme ça qu'on peut honorer saint Vincent de Paul, comprenez? À chaque fois qu'on fait une retraite avec le père Manjacal, on pose la question. Vous êtes tous chrétiens depuis 50 ans, 40 ans, 30 ans. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est merveilleux. Combien d'entre vous ont lu le minimum pour les débutants, c'est-à-dire toute la somme de saint Thomas d'Aquin? Combien? Hein? Combien? Faites l'expérience. Zéro. Zéro. Ah, par contre, qu'est-ce qu'ils ont dégusté en message, en machin, truc, voilà. C'est extraordinaire. Et j'avoue que je me rappelle toujours ces vols que je faisais quand je faisais ces vols du crapaud. Maintenant, c'était comme ça. C'était lourd, lourd. Bon, bien sûr, on volait, on passait au-dessus des toits. C'était un rêve, en fait. C'est quand on veut voir les choses un peu plus au-dessus des autres. C'est un fantasme, si vous voulez. C'est vrai. Saint-Vincent de Paul, non. Et donc, quelque part, c'est bien de se retirer de ce monde idiot. Tout pustulant, hein. C'est vrai. C'est bien de se retirer. Au jour du roi, parce que la femme met au monde, dans l'Apocalypse, elle met au monde un enfant mâle, un roi, un monarque, un saint, que le démon cherche à dévorer, c'est évident, avant qu'il ne soit manifesté au monde. Et pour que l'enfant ne soit pas dévoré, ben, la femme, c'est-à-dire l'Église, enfin la Jérusalem d'en haut, est emportée très haut. Elle s'envole dans le désert. L'avertissement sera un envol contemplatif dans le désert. Hors de la portée du démon. Il ne verra plus. Il ne pourra pas voir le grand monarque, le roi, cette sainteté-là. Parce que la contemplation chrétienne est infiniment plus élevée que celle de Satan, qui est pourtant la contemplation substantielle la plus élevée que Dieu ait jamais créée. Et donc notre contemplation doit s'élever très au-dessus de la contemplation angélique la plus substantiellement supérieure qui ait jamais existé. Il est le trône de la lumière. Lucifer. Et Jésus, en venant dans la subsistance de sa aspiration active, a transformé son amour en lumière par la résurrection. Et ça, notre contemplation, du coup, nous porte dans la subsistance du Verbe de Dieu. Je vais vous dire un truc. On nous apprend, je peux vous le dire, on nous apprend quand on est... étudiant dans un séminaire, qu'on fait des cours, c'est pas vraiment des cours, c'est des méditations, c'est, on apprend notre intelligence à se laisser prendre par la vérité, substantiellement. C'est pas vraiment des cours. Les cours, c'est pas comme ça. Les cours, c'est une accumulation de connaissances. Donc c'est pas des cours. Mais on apprend à faire l'induction de la substance. L'ousia, en grec. On fait l'induction de la substance. Et moi, je me rappelle, on y a passé 5 ans. Et la métaphysique de la substance, c'est quand même quelque chose. Et c'est 2-3 fois par semaine, pendant 5 ans. Et c'est important pour un prêtre. Saint-Vincent de Paul, il dit, si un prêtre ne sait pas ce que c'est que la substance, c'est terrible. S'il n'est pas capable d'être conduit à l'intérieur lumineusement de la substance pour la posséder vraiment, comment est-ce qu'il va savoir ce que c'est que la transsubstantiation? Comment est-ce qu'il va pouvoir, par la foi, pénétrer lumineusement, surnaturellement, de manière sacerdotale, l'aspiration passive dans la transsubstantiation? S'il n'est pas capable de savoir ce qu'est la substance, l'osia dans le est, quand Jésus dit ceci, est mon corps, comment va-t-il savoir? Comment va-t-il lui-même être englouti dans la transsubstantiation? Eh bien, quand de pénétrer de manière contemplative par induction dans le principe de ce qui existe, dans la métaphysique, dans ce qu'il y a de plus élevé, plus profond, plus dans le point de vue de l'existence, de l'être de Dieu et de l'être de toutes choses, dans le fait que simplement qu'ils existent et qu'on appelle la substance. Bon, à l'intérieur de ça, il y a une lumière dans laquelle on perçoit. Et on s'aperçoit que la substance, on s'arrête pas, ça ne consiste pas à répéter tout le temps substance, ousia, substance. Ça n'a rien à voir avec une répétition, c'est une induction. Et on découvre ce qu'elle est, et c'est tout un univers qu'il y a à l'intérieur de la substance. C'est tout un univers. Et si Jésus a choisi l'Eucharistie, c'est pour qu'on apprenne à rentrer dans le « je suis ». La première chose qu'il enseigne à Moïse, « Eye, Asher, Eye ». Si tu veux commencer seulement, rentre à l'intérieur du « je suis », le « est ». Dans l'intérieur de ce qui est à l'intérieur du est de l'existence. Ceci est mon corps. Et tu rentres dedans et c'est tout un univers qui s'explicite. Ça s'appelle la sagesse naturelle. Et tu t'aperçois que la substance a des odeurs, a des parfums, a des propriétés que ne possède pas l'accident, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas la substance. Dans la vie, il y a des substances, il y a des choses qui sont substantielles, et puis des choses qui sont accidentelles, qui servent à rien. Alors comme les gens avec le siècle des Lumières, à l'époque de Saint-Vincent de Paul, ont dit qu'il faut qu'on rabaisse au niveau ésotérique, ils ont remplacé substance par essence, en disant, mais ce que je vis, mais c'est essentiel. Désolé, ton essentiel, en fait, c'est accidentel, c'est de l'accident, c'est de la pourriture. Ce n'est pas de l'ousia, ce n'est pas de la substance. Eh bien, une des odeurs de la substance, une des émanations, dans la vie contemplative, quand tu rentres, quand tu contemples, tu touches, tu contemples, tu vois, et tu l'assimiles, et du coup tu peux rentrer à l'intérieur du monde de ce que tu contemples. Et bien quand tu rentres dans le monde de l'osia, de la substance, de l'être, tu t'aperçois d'une chose qui a des propriétés, il y a des espaces, c'est pas des espaces d'ailleurs, mais il y a tout un monde de lumière spirituelle, de vérité qui s'ouvre, et tu cherches, quiconque a fait est rentré là, et bien du coup, il ne peut plus s'arrêter, il a soif de vie contemplative, il cherche la vérité substantielle des choses. Et il la cherche, il recherche la vérité, et il recherche la vérité. Et cette soif de vérité, il le sait très bien, touche à l'intérieur une des modalités d'énergéia, d'une deuxième induction, à partir de la substance qui s'est donnée l'énergie. C'est la bonté incréée de l'acte pur de Dieu. C'est sûr, ça. Et il recherche la vérité, il recherche la vérité. Mais pour pouvoir rechercher cette vérité à l'intérieur de ce qui est substantiel, dans ce qu'il contemple, dans tout ce qui existe, c'est un peu du Saint-Anselme que je suis en train de vous faire, là. Eh bien, il découvre les odeurs, ce monde différent de la pensée humaine. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mon intelligence n'est pas... Très au-dessus. Ben, une des émanations, et je tourne autour du pont parce que je dis que ça vient petit à petit, c'est qu'une des propriétés, on voit les propriétés. Et par exemple, je prends une rose, elle a une odeur qui lui est particulière. Elle a la propriété d'avoir une odeur, un petit peu de nacre et tout ça. Voilà, c'est vrai. Et puis il y a les propriétés médicinales, elle a les propriétés de splendeur. Alors la substance, c'est pareil, elle a des propriétés. L'énergie aussi a des propriétés. Moi, lorsque je vais faire l'école. J'ai essayé, d'ailleurs, je me rappelle, j'avais une tentative. Aux enfants de 5, 6, 7 ans, c'est leur apprendre l'induction de la substance, l'induction de l'énergie. Enfin, le B.A.B.A. de l'époque, il y a 2500 ans. Le B.A.B.A. Les enfants adorent ça. Et ils voient tout de suite. Eh bien, une des propriétés de la substance, je vais vous le dire, c'est là, c'est une des propriétés, c'est la subsistance. Oh, que c'est joli, ça. C'est joli, hein? La subsistance. La subsistance. Mais oui. Eh bien, par la grâce sanctifiante, qui est une grâce, qui est un habitus entitatif, donc qui touche l'osia, c'est une vie habituelle de lumière dans l'osia, habitus entitatif. Ça, c'est le concile d'il y a 18 siècles. Hein. Et bien, par l'habitus entitatif, par la grâce sanctifiante, et bien, si je actue, si je mets en acte tout ce qui est capable, par la grâce sanctifiante, de s'épanouir en moi, être actué en perfection, eh bien, je rentre dans la subsistance, dans le Verbe de Dieu. Deuxième personne de la Très Sainte Trinité. Et la vie catholique consiste à rentrer dans la subsistance par la lumière, dans la chair et le sang, dans le Verbe de Dieu. La subsistance, c'est une propriété de la substance. Alors, tout ça, on dirait, oh là là, mais il faut faire les exercices de vie élémentaire de l'intelligence humaine. Et à ce moment-là, je découvre dans la lumière ce que c'est que la subsistance. Vous vous rendez compte comme c'est beau ça. Je m'aperçois que sans la grâce sanctifiante, sans l'habitus entitatif, c'est-à-dire sans cette vie habituelle en moi, de contemplation, dans la substance, dans l'osia même, de la personne divine, je ne peux pas rentrer dans la subsistance du Verbe de Dieu. Et vous voyez, je vais donc faire la différence dans ma vie spirituelle, c'est ça le discernement. Entre la subsistance dans le Verbe de Dieu et la transverbération, ce n'est pas la même chose. Ah, moi, je ne vois absolument pas la différence entre la subsistance dans le Verbe de Dieu et la transverbération, ben, après tout. C'est la même chose. Ah, tu ne sais pas faire la différence? Alors ça, c'est très embêtant. Je ne sais pas si vous voyez ce sens de Saint Vincent de Paul. Il a senti la détresse de l'humanité du royaume de France. Les enfants, dès le départ, jetés dans les égouts. Les galériens, les travailleurs. L'intelligence chrétienne réduite à néant. À la place de leur cerveau, dès qu'ils priaient les chrétiens, les catholiques, à cause du siècle de lumière, ils ont l'intelligence des rats. D'ailleurs, les rats se sont vengés contre lui. Il avait ce sens de la pauvreté. Il était très touché par ça. Et il s'est engagé. Aujourd'hui, on respecte les enfants à cause de lui. On respecte les travailleurs à cause de lui. Et on respecte la doctrine de l'Église et la recherche de la vérité et la formation de l'intelligence. Vous vous rendez compte quand vous avez des prêtres qui sont bêtes comme leurs pieds, qui ont l'intelligence des rats et des crapauds. C'est pas drôle. Évidemment qu'ils s'épuisent, ces pauvres prêtres. Vous à le comprendre, parce que c'est dans la subsistance à l'intérieur du Verbe de Dieu, ben, qu'on trouve appui pour rentrer dans la lumière surnaturelle de la foi. Et que Saint-Esprit, dans sa inspiration passive, ancrée, éternelle, nous assume et on est emporté avec la Jérusalem d'en haut, c'est-à-dire la Vierge, et tous ceux qui sont comme elle, à l'intérieur de la production de la grâce, de la sainteté du grand monarque, du véritable roi de France, du véritable roi d'Israël. Et ça ne se passe pas uniquement comme ça, avec, voilà, avec nos efforts mysticaux, crapaudingos. C'est quand même une certaine... Il y a une dignité quand même dans le pauvre. Il y a une dignité dans l'enfant. C'est une dignité divine. Tout ramener aux choses terrestres, humaines, c'est pas bien. C'est-à-dire humaine, c'est-à-dire sans Dieu, c'est-à-dire même pas humaine. C'est pas bien. Saint Vincent de Paul, il avait ce sens. Il était très très ému par cette espèce de détresse totale, quoi. Alors, il a trouvé, je crois que c'est ça, dans le cœur de Saint Joseph, la dernière porte de sortie. C'est un grand saint, hein. Ouais, c'est un grand saint. Parce que les choses ne sont pas si compliquées que ça. Hein. Quelque part, un seul mot et ça suffit. Dès lors que tu le prends au passage, tu le gardes, et tu le fais tourner en toi jusqu'à ce qu'il réalise en toi ce qu'il a signifié. Je vais rentrer par la transsubstantiation dans l'aspiration passive du Saint-Esprit et poussé par l'aspiration active du Verbe de Dieu, comme Saint-Joseph, et reçu en Saint-Joseph qui lui est inspiration de l'intérieur, de la active de l'époux, de la première personne de la Très Sainte Trinité, depuis sa conception. C'est pour ça que c'est pas étonnant ce que ma Maureen m'a dit, que Saint Joseph est le principe de l'Immaculée Conception, comme l'époux est le principe de l'épousée. C'est pas du tout une chose extraordinaire. Hein. Dès lors qu'on rentre à l'intérieur de Dieu et qu'on voit ce que Dieu fait, dans les émanations des propriétés divines et éternelles de la subsistance dans le Verbe de Dieu par la grâce sanctifiante. Vous voyez, je fais exprès d'employer des mots que vous ne trouverez dans aucune autre religion que la foi catholique. Tous ces mots-là n'existent pas dans les autres religions. Transsubstantiation, spiration, procession. Subsistance, transverbération, union hypostatique. Hein? Alors, ce qu'on voudrait simplement, c'est ça. C'est une des choses qui, vous savez, je vous assure, J'ai suivi des cours comme ça dans les studiums, dans les théologies, dans les livres aussi. Dans les universités pontificales, Fribourg, c'était une université pontificale. Ben, les enseignants de théologie, de la doctrine, et ceux qui sont censés former les pasteurs, on voit voit que c'est difficile pour eux de communiquer la vérité. On voit que c'est difficile. Hein. Des hommes de Dieu pourtant, hein. Vraiment. C'est difficile d'expliquer pourquoi, comment, enfin, quelle est la substance de la révélation. Enfin, de la lumière surnaturelle de la foi qui justifie. C'est la sagesse de la croix. C'est difficile, ça. La sagesse de Dieu, c'est la sagesse de la croix. Alors, nous, quand on a une vision un petit peu basse, charismatico, mystico, crapaud, dingo, on regarde, ben oui, il faut aimer la croix, il faut aimer Jésus, parce qu'il est crucifié, etc. Oui, mais c'est quand même d'en haut qu'il y a la sagesse de la croix, c'est pas par le bas. C'est pas parce qu'il y a le péché que du coup il y a la sagesse de la croix. C'est pas nous qui allons former en Dieu ce qu'il est dans sa sagesse quand même. C'est pas parce que je fais un péché que du coup Dieu est obligé d'avoir sa sagesse éternelle dans la sagesse de la croix. On n'est rien du tout. C'est pas parce que j'ai mis une pellicule de désquamation sur la terre que du coup Dieu change. La sagesse de la croix, ça appartient à l'éternité de Dieu. En quoi tu vas la sagesse de Dieu? La sagesse de Dieu, c'est la sagesse de la croix. Difficile, hein? Difficile de communiquer ça à des êtres rampants. Et je vois, je me rappelle, on voyait qu'ils avaient une énorme difficulté en prenant les textes de saint Paul, etc., énorme difficulté. Alors oui, il pouvait le dire, c'est vrai, c'est la sagesse de la croix. Tout est basé là-dessus, bien sûr, tout est basé là-dessus, mais est-ce qu'on peut obtenir? Ben non, si tu ne décolles pas de Martin Luther, mon pauvre prêtre, pauvre père exégète, tu peux pas. C'est beau, ça, Saint-Vincent de Paul, il a compris ça, il a compris que si l'humanité est dépouillée de sa lumière surnaturelle, révélée, bah elle est pire qu'un enfant abandonné par sa mère dès le départ, dans les égouts. Il avait ce sens-là. Il avait le sens de Dieu. Hein. Et du coup, il a compris la pauvreté de Saint-Joseph. C'était un très 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 grand contemplatif finalement, quelque part. Mais à l'école française, vous voyez, donc ce qu'on appelle l'école française, c'est une période très extraordinaire. Vous voyez, il n'y a qu'à dire de 1555 à 1666, quelque chose comme ça. Quand on explique l'histoire de l'Église, il faut toujours faire comme ça, il faut faire tous les 111 ans. Et qui a produit, par exemple, qui a permis que les gens, les chrétiens se sont, au moment de Saint-Vincent de Paul, à la fin de Saint-Vincent de Paul, dans tous les séminaires, dans tous les couvents, dans tous les dominicains, ça a été un renouveau partout. Il a engendré un renouveau partout. Vous allez chez les dominicains, vous vous rendez compte? Et ils étaient à genoux, ils faisaient oraison ensemble. Ils faisaient oraison ensemble et ils rentraient dans la vie chrétienne, catholique, je veux dire, monastique, normale, religieuse. Et vous prenez, je ne sais pas, par exemple, et ils rentraient le père Pigny, quand ils faisaient oraison, c'était pas rare du tout comme à l'époque de Jésus pour les Hokmeh et Talmud, que les Dominicains étaient 3 ou 4 à rentrer en extase, ravissement et en pleine lumière. Visible. Ça, c'était l'école française, ça. Ça ne me semble pas engendrer, ça, sa cause méritoire, un renouveau. Et le Rennes, il y a quelque part toute la théologie Saint-Jean-Eudes. Cet amour du cœur de Jésus, de Joseph et de Marie. Bien sûr, il a fallu la Révolution française, 100 ans après, pour le détruire de fond en comble. Et interdire les sacrements. Vous voyez, et ça, c'est l'école française, c'est quelque chose. Au milieu de l'école française, vous avez Saint-Vincent de Paul. C'est quand même quelque chose. C'est quand même quelqu'un, et ce qu'on peut en nous, on en retient quoi? On retient tout? On ne voit pas pourquoi on retiendrait seulement une petite partie, puisqu'il n'y a pas de cause diminuante dans la grâce sanctifiante. Il est beau, mais ça, la parole qu'on a lue, la lecture, c'est vrai, tout est détruit. Tout est dispersé. Les rois laïcs athées nous ont fait prisonniers, mais enfin, on est quand même quelques rescapés à pouvoir rentrer dans la sainteté du temple de Jérusalem. Ils nous ont demandé de le reconstruire, en plus. Et il y a quelques rescapés qui peuvent rentrer dans la construction du temple du Saint de Dieu, dans la Jérusalem d'en haut. Il y a des rescapés. Il n'y a pas de cause diminuante dans la grâce. Il y a des rescapés. Ils peuvent rentrer et pénétrer dans la sainteté du temple, dans la paternité, donc incarnée de Dieu. Traduisez Saint-Joseph, évidemment. Il faut qu'on rentre dans la conception que Dieu le Père a fait de sa propre hypostase dans la matière vivante de l'image et ressemblance de Dieu. Et nous pouvons pénétrer dans le sein des saints. On est quelques rescapés avec l'Immaculée Conception à pouvoir retourner à notre source dans la paternité incarnée, celui qui est sur le trône, et passer de la subsistance dans le Verbe de Dieu en passant par la transverbération surnaturelle, divine, théologal, mystique, accompli jusqu'à la septième degré de son accomplissement, pour passer à cette révolution des derniers sauts de l'Apocalypse dans la sponsalité et finir par subsister dans l'époux. Dans la transglorification. M'excuse. Mais est-ce qu'il y a autre chose à dire que ça? Moi, je crois pas. Si Meshomem est au milieu de nous, et qu'est-ce que vous voulez? Donc, quelque part, il y a des rescapés, et ces rescapés peuvent voler comme ça. Et l'enfant mâle, c'est-à-dire la royauté, hein, la royauté de l'Israël, le nouvel Israël, le nouveau Jacob, le nouveau Joseph, si vous voulez, la nouvelle royauté, le nouveau roi, celui qui porte la nature humaine tout entière, de chacun, jusque dans leur conception, à chacun, ils le portent plus qu'eux-mêmes ne portent leur propre conception, en raison de la subsistance à l'intérieur de la sponsalité incréée de Dieu. Voilà, il y a quelques rescapés pour vivre de ça, pour échapper, pour aller beaucoup plus haut dans la vie contemplative, toute simple. beaucoup plus haut que les mêmes. Lumière les plus élevées spirituelles du monde angélique de Lucifer. Ça va plus loin que le trône de la lumière. Ça va plus loin que le trône de la lumière. Lucifer, trône de la lumière. Ça va, un jour, il faut faire la théologie aussi de Lucifer. Parce que Lucifer, c'est un trône. Vous savez, vous avez les anges, les archanges, les principautés, les vertus, les puissances. Et encore au-dessus, vous avez les dominations. Encore au-dessus, vous avez les trônes. Et puis, à cause de l'accomplissement de toutes choses dans le Christ Jésus, sa résurrection et l'au-delà de la résurrection, vous avez aussi les chérubins et les séraphins. Mais les trônes, c'est quoi? C'est que c'est celui qui porte ce que Dieu est éternellement. Mais par exemple, Dieu est lumière. Eh bien, il y a un ange qui est la lumière éternelle de Dieu, mais à l'état de créature. Lumière de Dieu. Lumière éternelle de Dieu, à l'état de créature. Est-ce que tu peux trouver une lumière de l'intelligence contemplative plus élevée que ça? Non. Deuxièmement, je réponds. Cette première réponse est fausse, parce qu'il y a une lumière plus élevée encore. C'est celle qui est intime aux hypostases de l'aspiration transformée en lumière. Ça échappe à la lumière créée, spirituelle, angélique de Dieu. La lumière de Dieu à l'état angélique, à l'état spirituel pur et parfait, la lumière éternelle à l'état créé, ce n'est pas l'amour à l'état substantiel et créé. Donc il y a un autre ange pour ça. Lucifer tout seul ne peut pas atteindre. Il faut passer par les trois hypostases. Et pour ça, il faut la sagesse de la croix. C'est pour ça que la croix glorieuse aveugle Lucifer. Il ne peut pas voir. Et la Vierge, du coup, la femme, est emportée dans le désert de cette sponsalité éternelle et ancrée. Elle a besoin pour ça de la sponsalité. Elle a besoin pour ça de la fécondité. Elle a besoin pour ça de cette émanation jusque dans la chair. Elle a besoin des rescapés. Elle a besoin d'une cause méritoire. Et la cause méritoire ne peut pas exister sans la foi. Et la Vierge ne peut plus exprimer un seul acte de foi. Elle est dans la vision béatifique. Et donc tout est suspendu aux rescapés qui doivent marcher dans les traces et posséder, si je puis dire, l'Immaculée Conception dans sa foi. Et Saint Joseph dans sa foi aussi. Méritoire et dans leur charité méritoire, dans leur accomplissement final, dans la Jérusalem spirituelle, avec tous leurs parfums. Et là, du coup, oui, eh bien, ils emportent, ils assument la nature humaine tout entière de chacun et aussi chacune des conceptions possibles par la foi. C'est ça, la sainteté du véritable Israël de Dieu, la sagesse de la croix vécue. C'est ce qu'on essaie de vivre depuis 4 ans, hein, 4-5 ans, de suivre ce truc-là, là, de suivre ce point très élémentaire que Saint Jean nous a donné dans l'Apocalypse, le truc de base, quoi. Hein. On n'a pas de temps à perdre. Hein. Faire autre chose, des choses qui sont bien, mais tant pis, on ne pourra pas servir. Ça veut dire qu'on n'aura pas rempli nos fioles d'huile. On a nos lampes, on l'allume, c'est vrai, mais il n'y a pas les fioles d'huile à côté. Voilà. Ça, on ne pourra pourra pas servir. On sera certainement sauvés, mais on pourra pas servir. C'est les vierges pour les noces. On pourra pas servir pour la sponsalité agréée de Dieu au jour de la trompette. On pourra pas. Mais il y a quelques rescapés pour entrer dans le temple, pour entrer dans l'anel, dans le calice de la nature humaine où le sang, c'est-à-dire l'amour éternel du Père, peut pénétrer jusqu'à la racine de la nature humaine dans la coupe, la fameuse coupe de la préparation. C'est une espèce de, comme dit saint Denis l'Aréopagite, la vie contemplative dépasse le monde angélique parce que elle est à la fois circulaire, à la fois verticale et à la fois oblique. C'est beau ça. Et elle est verticale parce qu'on n'est fait que de la matière. Et donc, une capacité d'adoration en esprit, d'esprit saint, et en vérité en esprit, inspiration passive, et en vérité, inspiration active de l'épouse. Elle est aussi circulaire, parce que nous subsistons dans le Verbe de Dieu qui est éternel, et dans sa transverbération. Et enfin, elle est oblique, parce qu'elle est sponsale. Il y a un critère oblique, comme dit le pape Jean-Paul II, sur la sponsalité. Notre corps est intériorisé lumineusement, vivifié, brûlé par le don. C'est le critère oblique. Ça n'appartient pas à Lucifer, tout ça. Tu vois, je vois pas la différence quand je suis emporté. Dans ma vie contemplative d'union avec Dieu, entre le vertical, l'oblique et le circulaire, je vois pas la différence. Là, évidemment, si tu vois pas la différence, très très ennuyeux. Et attends, je te signale quand même que tu as été créé spirituellement par Dieu. Tu es une vie spirituelle. Tu es une substance spirituelle. Tu es une ousia spirituelle, pas seulement psy. Métapsy. T'es pas une boule d'énergie cosmique, et non. Tu as été créé spirituel, tu es un être spirituel. T'as une dignité spirituelle. Il faut que tu ailles trouver dans ton fond cette dignité spirituelle. Eh bien écoute, c'est ça ce que la Sainte Vierge a expliqué à Sainte Bernadette. Allez, je vais vous apprendre. Vous vous tournez vers Saint Joseph, vous rentrez à l'intérieur de lui, vous regardez comment il a été conçu, moi je suis l'Immaculée Conception. Regardez comment il a été conçu pour être dans la détresse de la nature humaine tout entière, au plus bas de sa détresse, sa misère, ce cri surnaturel du Verbe de Dieu dans sa sagesse de la croix agréée. Dans toutes ces respirations, tous ces battements de cœur, toutes les multiplications cellulaires depuis sa conception pour demander pardon, pour demander qu'il y ait l'Immaculée Conception, qu'il y ait l'absolution, que la nature humaine soit entièrement Immaculée Conception, que toute la nature humaine soit entièrement Immaculée Conception. C'est à lui que nous devons rentrer à l'intérieur de Joseph, mon époux. Si je vous apparais à Lourdes en ce moment, c'est parce que nous avons le même âge. J'arrive vers vous le jour de mon mariage avec Joseph. C'est pas beau ce secret de Lourdes, hein? Qu'on me dise pas que c'est intellectuel. Alors, faites comme moi, aussitôt, j'ai trouvé la source de ma sponsalité, c'est lui. Et donc, dans le temple, c'est-à-dire dans la paternité agréée de Dieu, je me suis enfoui, je me suis englouti. faites comme moi. Et avec lui, vous serez transformé dans l'union transformante jusque dans la chair. Et vous transformerez la nature humaine tout entière, pas seulement vous, tous les autres hommes aussi en même temps. Le secret de Lourdes, tu ne peux pas le séparer de Saint-Joseph, ni de Saint-Vincent de Paul, ni de l'Immaculée Conception. C'est l'oraison qui fait ça. On découvre ça. Ce n'est pas l'oraison d'affaissement, vous savez. C'est l'oraison d'affaissement. Ah, c'est l'oraison. Il faut voir. Chaque fois, l'oraison, ce n'est pas du tout. Allez, c'est le moment de l'oraison. Alors, au bout de 30 secondes, l'oraison d'affaissement. Le quiétisme et l'oraison, attention, c'est oblique, c'est vertical, c'est circulaire, c'est transsubstantiel, c'est l'union hypostatique déchirée, c'est l'emportement, c'est l'aspiration, c'est l'éternité, c'est l'émanation, c'est la participation à l'autorité du Dieu créateur sur tout ce qui existe. Et ça ne se fait pas dans une oraison d'affaissement. Enfin, grâce à Dieu, il y a des rescapés. Et qu'il plaise à Jésus, qu'il plaise à Dieu que nous soyons parmi les rescapés. Vous savez, c'est ce que le prêtre doit dire normalement. C'est ce que dit Jésus à Saint-Pierre après sa résurrection. Il dit, mais lui là, il dit, s'il me plaît, qu'il soit avec moi jusqu'à la fin. Jean là, Saint Jean, mais s'il me plaît, je ne sais pas, j'aurais voulu voir juste la mimique du visage de Jésus quand il dit Saint-Pierre, écoute Saint-Pierre, s'il me plaît, hein, si ça me plaît, que lui, il soit avec moi jusqu'à la fin. Communion, on dit, Seigneur, qu'il te plaise que je sois avec toi jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que je vienne. Et Saint Jean, il dit, de là, on dit que ce disciple de Jésus ne mourra pas. Mais il n'a pas dit qu'il ne mourra pas. Il a dit, s'il me plaît, qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, jusqu'à la fin. Seigneur, accorde-moi, s'il te plaît, que je puisse ne jamais être séparé de toi en rien jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu viennes. C'est dans la liturgie, hein? Dans la liturgie orthodoxe aussi. Alors on peut le dire. Ah ben voilà, moi je ne suis pas rescapé, ce que dit le Père là au sermon, moi je me reconnais, hein. Je ne fais pas partie des élites, hein. Je ne suis pas Saint-Vincent de Paul, hein. Tant pis, hein. Je courrai derrière autant que je peux, on sera quand même sauvés, c'est déjà pas mal. Est-ce que c'est ça ton ambition? C'est pas l'ambition de Dieu en tout cas. Alors tu dis simplement, s'il te plaît, que je sois parmi les rescapés. La médiocrité n'est pas catholique. On ne vient pas faire une retraite pour pratiquer l'adultère. Moi, j'aime bien venir ici parce que on a le temps, vous savez. Vous savez, dans les paroisses, c'est pas drôle, les prêtres. Attention, hein, si tu fais un sermon qui dépasse 7 minutes, t'as droit à la mitrailleuse lourde. Hein. 10 lettres de dénonciation à l'évêque. Hein. Je suis enchanté de ne pas avoir de paroisse. Moi. Mais j'ai eu des paroisses, vous inquiétez pas, j'ai eu des paroisses. Je sais ce que c'est. Je suis rentré dans le cadre, pareil. Mais on peut faire quelque chose, mais c'est vraiment de l'homéopathie à ce moment-là. 7 minutes à chaque fois, paroisse de Nefiac, paroisse de Corbet, mais on y arrive, en fait, le peuple. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. C'est pas le fait que ça dure longtemps. Une explication n'a pas besoin de durer longtemps. Mais c'est quand même agréable de pouvoir être tranquille. Hein? Sans des milliards de mitrailleuses lourdes derrière, sur le dos et les reins, disant. Hein? On est tranquille, on est entre nous, on a le temps. Ce qui compte pour nous, c'est le bon Dieu, c'est tout. Et on veut bien être tranquillement comme ça entre nous, avec uniquement la messe, c'est tout. Sans croiser les jambes, bien sûr, mais voilà. Voilà, bon, on prie bien pour Christian, hein. L'intention de la messe, c'est pour l'époux défunt de Minou, qui s'appelle Christian. Le défunt, c'est la trône. C'est beau, hein. Il est content, lui, hein. Quand je pense à lui, je pense bien à Ray et Carpur. Allons, allons à sa rencontre. Volons, volons à sa rencontre. Car voici Jésus qui vient à nous. Allons, allons à sa rencontre. Volons, volons à sa rencontre. Car voici le Verbe, vient resplendir en nous et en tout. Éclaire ta lampe et fais-la brûler dans ton cœur. Voici l'époux est là, il ouvre grand son sein, tout grand son saint amour. Elles sont saintes de lumière.